Audiolib présente Une brève libération de Félicité Herzog. Lue par l'auteur. Quel est ce sentiment qu'on appelle l'amour chez les mortels? Le plus doux, ma fille, et le plus amer tout ensemble. Euripide, dans Hippolyte. Je ne ressentais ni indignation, ni sentiment d'ironie, mais une vague angoisse, celle qui vous trouble aux os devant les survivants d'une espèce éteinte. Antoine de Saint-Exupéry dans Lettre à un otage. L'espoir recommençait, mais je savais que plus jamais la fallacieuse innocence du passé ne ressusciterait. Simone de Beauvoir dans La force de l'âge. À Simon Nora. Depuis le début de la guerre, May avait son jour. Comme d'autres grandes dames de Paris, elle accueillait, dans le salon du 36 Cours Albert Ier, une foule de relations et d'obligés qui y trouvaient, en période d'âpre rationnement, pâtés, légumes, champignons et volailles en tout genre, transportés par son chauffeur de la campagne aux cuisines, mais aussi chauffage assuré et conversation informée. Il n'était pas question de déchoir. Elle se tenait ainsi, une main baguée sur sa hanche frêle, un léger mouvement de balancier. Au centre d'une société si impudique par ses indiscrétions et par ses maux d'esprit, qu'elle faisait doublement la publicité de ce qui devait rester confidentiel. Ces après-midi voyaient virevolter hommes politiques, représentants de la commande en tour, écrivains, actrices et femmes du monde vêtues de Chanel ou de Schiaparelli, comme elle. Les portes du salon, aux poignées octogonales, s'ouvraient sur des pièces aux tentures bleu nuit, plongées le soir dans une semi-pénombre par des bougeoirs et illuminées à brusques intervalles par les feux des dernières péniches. La ville et la Seine semblaient lointaines, pourtant la rue n'était qu'à quelques mètres en contrebas. On accédait à cet hôtel particulier par un grand porche, jouxtant celui de l'hôtel voisin du 34, plus impressionnant encore, par lequel s'engouffraient autrefois les voitures à cheval. Les parents de May y vivaient. Ils avaient offert à leur fille et à son mari, Pierre de Brissac, l'écrin du 36 en cadeau de mariage, après que Paul-Ernest Sanson, l'architecte du Palais Rose, eut rénové ses pièces de réception. Le grand salon était orné de panneaux représentant des plantes et des oiseaux exotiques, inspirés de Jean-Baptiste Pillemant et de Paul-Élie Ranson. Dans la salle à manger, décorée dans un style Louis XVI or et blanc, figuraient des natures mortes de Jean-Baptiste Oudry. Enfin, dans l'impressionnant vestibule, encadré par des battants à miroir, une jeune égyptienne en albâtre recueillait un bébé, Moïse, sauvé des eaux. Elle renvoyait une image de bonté juvénile aux quatre coins du hall. Chaque fois, pourtant, on était saisi par le décalage flagrant entre cette tendre compassion et la dureté des êtres qui habitaient ce lieu. La tendresse ici était prise dans le sceau de la pierre. Un escalier révolution, en marbre blanc, courait sur deux étages, une cathédrale à lui seul dans ce décor qui inspirait le sacré. Marie-Pierre avait 15 ans, ce printemps 1940. Au 36 Cours Albert Ier, personne ne doutait de la supériorité de l'armée française et de l'issue du face-à-face avec l'Allemagne. On considérait la France mieux armée, mieux entraînée, et l'on était certain que ses adversaires ne tiendraient pas le blocus qui leur avait été imposé. Deux lignes de défense seraient infranchissables, la propagande gouvernementale le serinait, la forêt des Ardennes, et une construction de 500 km de long d'où les canons sortaient et disparaissaient à la demande. Dissimulés à 20 mètres sous terre, des troupes tireraient habilement les ficelles de cette guerre invisible, au cours de laquelle pas une goutte de sang ne serait versée. Les familles allemandes avaient consenti au même sacrifice que les familles françaises pendant la Grande Guerre. Elles avaient payé cette folie de perte d'autant plus cruelle qu'elle semblait à présent absurde, monstre.